Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous parlerons de la Syrie dans ce magazine. Nous reparlerons de la bataille juridique autour du terme Allah en Malaisie. Nous parlerons également de la théorie du genre, de la souffrance des centrafricains, ainsi que du dialogue selon le pape François. Alors où ce magazine a été enregistré, il était impossible de savoir exactement ce qui s'est passé en Syrie. Massacre ou macabre mise en scène. L'armée syrienne a démenti catégoriquement avoir utilisé des armes chimiques dans la banlieue de Damas, comme l'en accuse l'opposition qui parle de centaines de morts, alors qu'une mission d'experts de l'ONU était présente en Syrie justement pour enquêter sur les armes chimiques. Depuis le début du conflit, le Saint-Siège a multiplié ses interventions et ses appels pour tenter de trouver une issue pacifique. Par le biais de ses représentants, il s'est toujours et résolument prononcé contre la fourniture d'armes aux belligérants. Au début de l'année, Benoît XVI avait demandé aux 179 ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège de sensibiliser leur gouvernement. C'était début janvier 2013. On écoute Benoît XVI.
Je renouvelle mon appel afin que les armes soient déposées et que prévale le plus tôt possible un dialogue constructif pour mettre fin à un conflit qui ne connaîtra pas de vainqueurs, mais seulement des vaincus, s'il perdure, ne laissant derrière lui qu'un champ de ruines.
À 16h heure de Rome ce mercredi, nous avons pu joindre le nonce apostolique à Damas, Monseigneur Zenari. Écoutez ce qu'il nous a dit.
Ce matin tôt, vraiment, on s'est réveillé aux rumeurs des canons, de l'artillerie, et on s'est aperçu que vraiment c'était une journée un peu particulière, terriblement particulière, et aussi maintenant que je parle, il y a encore les rumeurs des canons, de l'artillerie, et vraiment on avait l'impression, même pendant la messe que j'ai célébrée dans la chapelle de l'Annonciature, bon, on entendait toujours ces bruits de guerre, et vraiment on s'est aperçu que quelque chose de grave s'est passé à Damas, ou bien à la périphérie de Damas. Mais après, j'ai aussi entendu que dans la vieille ville de Damas aussi sont tombés des obus par ici et par là. Et bien sûr, on est déjà habitué à ces obus, mais ce matin, vraiment, on a eu l'impression que Damas et la périphérie ont vécu une journée terrible.
Des images terribles nous parviennent depuis ce matin, celles de centaines de cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants. L'armée de Bachar el-Assad est accusée par l'opposition d'avoir utilisé des armes chimiques. Malheureusement, nous ne disposons que de peu d'informations. Est-ce que vous avez d'autres informations peut-être plus fiables et surtout vérifiées?
Non, je n'ai pas des informations précises parce que cet endroit, c'est tout près de Damas, mais c'est plutôt dans la périphérie. Et moi aussi, j'ai vu à la télévision cette image qui sont vraiment, vraiment terribles, voir surtout des enfants et des personnes qui ont été touchées dans cette manière. C'est vraiment quelque chose qui touche toute la communauté internationale. Et je crois que la réaction des gens est de dire il faut finir avec cette guerre, on ne peut pas plus continuer avec cette guerre. Je crois que c'est un cri alarmant des Syriens et aussi à la communauté internationale pour dire aidez-nous à terminer ce conflit, on ne peut plus continuer comme ça.
Le nonce apostolique à Damas, interrogé par Manuela à Fidji. En République centrafricaine, l'archevêque de Bangui a rendu visite à 2400 évacués qui ont dû fuir leur village à cause des massacres perpétrés par les rebelles de la Séléka. Monseigneur Dieudonné Nzampalenga est l'une des rares voix dans le pays qui s'est levée contre l'injustice et la violence. La visite a commencé le 17 août à Bouzoum par une rencontre avec les délégués des 8 villages dont proviennent viennent les évacuer. Leurs représentants ont présenté la situation et exprimé leurs besoins, médicaments, nourriture et abri. Audrey Radondi.
Plusieurs réfugiés continuent d'arriver dans cette ville. Les réfugiés sont terrorisés. Ils témoignent des cas d'assassinats et de violences sur la population civile. Certains ont été ligotés et roués de coups. Les corps des tués sont jetés dans la rivière. À Bozoum, leur situation humanitaire est très délicate. Un missionnaire italien explique que l'administration locale a été déstructurée. Les rares fonctionnaires encore en place sont impuissants car tout est entre les mains des rebelles qui administrent eux-mêmes la justice. « Nous traversons le fleuve et allons rencontrer les rebelles », raconte le père Gazzera. Leur chef, affalé sur une chaise, ne parle qu'arabe. Son adjoint sert d'interprète. « Nous disons que nous sommes venus visiter les villages touchés par leur violence et par les meurtres. » Mais le chef déclare que cela n'est pas vrai, que rien de tout cela ne s'est passé. Je lui fais répéter par deux fois. Pendant sa visite à Bozoum, l'archevêque de Bangui a par ailleurs rencontré le consul du Tchad, pays dont proviennent de nombreux rebelles pour réclamer son intervention, avant de partir en direction de Bossangoa pour y poursuivre sa mission de solidarité. Depuis la chute du régime Bozizé, le pays vit dans un climat d'insécurité généralisée.
Dans la nuit de mardi à mercredi, des tirs nourris ont été entendus dans deux quartiers de Bangui, la capitale, lors d'une opération de désarmement de partisans de l'ex-président François Bozizé, menée par les forces du nouveau régime centrafricain. Des pèlerins africains sont attendus le 31 août au sanctuaire d'Einsiedeln en Suisse. Accompagnés de 8 chœurs africains, ils participeront au troisième pèlerinage africain auprès de la Vierge Noire. Ils se retrouveront devant l'église de l'abbaye qui abrite la chapelle de la Vierge Noire. Après un chemin de croix animé par des chants traditionnels de différents pays d'Afrique, ils assisteront à la célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Lugano, Mgr Grandpa. L'occasion pour les catholiques africains vivant en Suisse d'exprimer leur foi à leur manière et de prier ensemble. L'occasion également d'attirer l'attention sur la présence des catholiques africains au sein de l'Église de Suisse. Quelques groupes prépareront des spécialités africaines. Les organisateurs s'attendent à une journée haute en couleurs avec beaucoup de musique, de danse et de prières. Pour favoriser la rencontre, la pastorale des migrants et des personnes en déplacement invite les fidèles non africains à participer au pèlerinage. Je vous en parlais hier dans ce magazine. La bataille juridique autour du terme Allah serait sur le point de connaître un épilogue en Malaisie. Cette controverse oppose depuis 2008 le journal catholique Herald au gouvernement malaisien qui lui reproche l'usage inapproprié du terme Allah qui serait réservé aux seuls musulmans. Or, il n'existe aucun autre mot dans la langue malaise parlée par la majorité des chrétiens de Malaisie pour désigner Dieu. La haute cour doit rendre son verdict ce jeudi. Décryptage d'une controverse politico-religieuse avec Régis Anoui, rédacteur en chef de l'agence d'information Église d'Asie.
Ce qui est reproché là à l'Église catholique, mais également aux églises protestantes qui font de même, c'est que pour un certain nombre de personnes en Malaisie, cette utilisation du terme Allah pour dire Dieu est une incitation à semer le trouble dans l'esprit des musulmans pour les amener à se convertir, disent-ils, au christianisme en cultivant donc cette confusion entre Allah, le Dieu des musulmans, et Allah, le Dieu des chrétiens. Et cette polémique donc a duré sur le plan juridique. Nous sommes dans un état de droit en Malaisie, jugement en première instance, en deuxième instance, qui tous les deux ont été favorables aux églises chrétiennes, et le gouvernement réattaque en dernier appel pour effectivement obtenir gain de cause selon sa ligne, et sa ligne qui est celle de vouloir interdire aux chrétiens d'utiliser le mot Allah. Là-dessus, effectivement, arrive le nonce. Le nonce, pourquoi ? Parce que la Malaisie entretient depuis 2012 des relations diplomatiques pleines et entières avec le Saint-Siège, avec le Vatican. On se souvient que le Premier ministre malaisien s'était rendu au Saint-Siège, avait rendu visite au pape l'année dernière. Et à la suite de cette visite, les relations diplomatiques avaient été établies. L'installation du nonce date d'il y a quelques mois, et dans son premier entretien à la presse, un site d'information en ligne, de Malaysian Insider, le nonce expliquait la réalité de son travail, quel est le travail d'un nonce, et il se prononçait également sur différents points de l'actualité malaisienne, notamment la question de la conversion, plus exactement de la liberté de conscience. C'est un sujet extrêmement délicat et difficile, même tabou en Malaisie, où on considère que les musulmans n'ont pas, et les musulmans ne se donnent pas cette liberté de conscience de changer de religion. Et en des mots très mesurés, le nonce réaffirmait l'importance de cette liberté. Et il disait également, en des termes très mesurés là aussi, soutenir en quelque sorte les églises chrétiennes dans leur polémique sur cette question du mot, l'utilisation du mot Allah, qualifiant la position des églises chrétiennes de plutôt logique et acceptable. Je reprends ces termes.
Cette controverse est-elle vraiment essentiellement religieuse ou bien au contraire, est-ce qu'elle cache des enjeux plus politiques ?
Elle est politique car il y a ce gouvernement qui est actuellement au pouvoir et qui a été conforté au pouvoir par les dernières élections, a vu néanmoins sa majorité au Parlement fondre comme neige au soleil depuis les dernières élections. Il a sauvé sa majorité parlementaire aux élections du 5 mai dernier, mais pas sa majorité populaire, en ce sens qu'il y a eu une majorité de voix pour l'opposition et simplement une courte minorité pour la coalition actuellement au pouvoir. Donc cette coalition est fragilisée et sa composante principale, l'UMNO, qui est au pouvoir depuis 56 ans, est également fragilisée et en proie à des dissensions internes. À l'automne prochain, dans quelques mois, ce parti va tenir son congrès et on assiste à une lutte effectivement où l'on voit certains partisans, notamment de l'ancien Premier ministre et homme fort du Malaisie, le docteur Mohamed Mahathir, faire une surenchère en quelque sorte vers des positions plus islamiques ou islamistes et donc interdire aux chrétiens l'utilisation du mot Allah dans la mesure où ils cherchent à reconquérir une certaine popularité au sein de l'UMNO. Alors que le Premier ministre au pouvoir, qui appartient à une autre faction de l'UMNO, lui au contraire est soucieux de ne pas laisser de terrain à son ancien adversaire en quelque sorte, Mohamed Mahathir, et veut conserver ce terrain en portant la polémique sur la question de l'islamisation, ou en tout cas de l'utilisation par les chrétiens du mot Allah. Il y a donc là une lutte purement politique qui se traduit sur le terrain religieux dont les chrétiens en quelque sorte font les frais actuellement.
Régis Anouy, rédacteur en chef de l'agence d'information Église d'Asie. Au Paraguay, les évêques catholiques ont exprimé leur indignation suite au meurtre intervenu dans la zone de Tacuati, un département pauvre contrôlé par les guérilleros de l'EPP. Samedi, un commando de l'armée du peuple paraguayen a tendu une embuscade à une patrouille de la police nationale, causant la mort de 5 agents de police et de graves blessures à 2 de leurs collègues. Dans un communiqué, l'Église exhorte les autorités à faire tous les efforts possibles afin d'établir les faits, d'identifier les responsables et d'appliquer les sanctions prévues par la loi. Dans le même temps, elle invite tous les citoyens à travailler en faveur de la concorde et de la pacification des esprits. Le président de la République, Horacio Cartes, qui vient de prendre ses fonctions, a proclamé l'état d'exception dans la zone, suspendant ainsi les garanties constitutionnelles afin de permettre l'intervention de l'armée. Apparue en 2008, la guérilla marxiste-léniniste EPP affirme agir au service de la cause de la réforme agraire. Ses méthodes, enlèvement et extorsion, rappellent davantage celles du crime organisé. Elle est d'ailleurs accusée par la justice d'entretenir des liens avec les FARC de Colombie. Une brève rencontre informelle avec un groupe de Japonais pour le pape François ce mercredi matin. 200 élèves et une quinzaine de professeurs d'un collège de Tokyo. Le Saint-Père les a salués et bénis dans la cour Saint-Damase au Vatican. Quelques mots en présence d'un interprète, le temps d'encourager une nouvelle fois le dialogue et la rencontre et de rappeler quelles sont les règles du dialogue.
Votre visite pour moi est un plaisir car cela fait toujours du bien de connaître d'autres personnes et d'autres cultures. Si nous restons isolés, nous ne pouvons pas grandir culturellement. Si nous sortons à la rencontre d'autres personnes, culture, religion, mentalité, alors nous commençons cette belle aventure qui s'appelle dialogue. Le dialogue est très important pour mûrir. Bien sûr, on court le risque en dialoguant de se mettre en colère, de se disputer. Et ça ne va pas. Pour pouvoir dialoguer sans s'accrocher, il faut faire preuve de douceur et de modération. Il faut savoir d'abord poser les bonnes questions et écouter avant de parler. Et si on n'est pas d'accord, on peut quand même être amis. C'est ce dialogue qui engendre la paix. Il ne peut y avoir de paix sans dialogue. Alors, sachez dialoguer.
Et quand les jeunes ont entonné l'hymne de leur école, le pape François a plaisanté. Je sais, le dialogue a besoin de réciprocité, mais je ne sais pas chanter. Des journées mariales se dérouleront les 12 et 13 octobre au Vatican en présence du souverain pontife avec la participation de toutes les associations de spiritualité mariale. Ces journées sont organisées par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi. Elles coïncident avec l'anniversaire de la 6e et dernière apparition de la Sainte Vierge à Fatima le 13 octobre 1917, apparition suivie du miracle du soleil. La statue originale de Notre-Dame de Fatima sera portée sur la place Saint-Pierre et exposée à la vénération des fidèles. Samedi soir, le pape François proposera une catéchèse mariale aux fidèles et dimanche matin, il célébrera la messe en plein air. Ni féminin ni masculin, le troisième genre sera bientôt reconnu en Allemagne. À partir du 1er novembre, les nouveau-nés pourront être de sexe indéterminé. Se basant sur un avis de la Cour constitutionnelle qui estime que le genre ressenti et vécu est un droit humain de base, Berlin a décidé que les personnes atteintes d'une anomalie génétique à la naissance pourront être déclarées de sexe indéterminé. Ces personnes pourront ensuite, à n'importe quel moment de leur vie, se faire opérer et opter pour un sexe ou l'autre. En ce qui concerne le nombre de personnes concernées, certaines sources parlent d'un nouveau-né sur 5000, un faible pourcentage donc. Cette décision, qui ne concerne que les personnes intersexuées, intervient alors que le débat sur la théorie du genre continue de faire rage. Une théorie qui se diffuse rapidement, y compris dans les livres scolaires. Elle nie la différence sexuelle et la complémentarité naturelle entre l'homme et la femme. Elle affirme que l'identité sexuelle n'est pas réductible au sexe biologique, mais dépend aussi d'une construction sociale. L'idée a fait son chemin et a trouvé de nombreux adeptes. Dans l'Église catholique, au contraire, plusieurs voix se sont élevées pour condamner cette théorie. Pour elle, on bafoue les lois de la nature au nom de l'égalitarisme. Le risque est de déstructurer les bases de la société, de provoquer une véritable mutation sociologique et d'ébranler les fondements de l'anthropologie chrétienne. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose justement de réécouter un entretien réalisé en novembre dernier à l'occasion des Semaines sociales de France. Cette session 2012 s'était fixée pour premier objectif de dresser un état des lieux de l'égalité homme-femme et de prendre la mesure des évolutions qui ont modifié en quelques décennies une hiérarchisation plus que millénaire entre les sexes. Un équilibre fragile, bousculé justement par la théorie du genre. Jean-Pierre Rosa, délégué général des Semaines sociales, pense que la différence est la matrice de toutes les autres altérités. Manuela Figi l'avait interrogé pour un bilan de cette session.
Il y a des lois pour la parité, ou disons pour l'égalité ou la mixité. Normalement, ça devrait marcher. Or, il y a des résistances, c'est-à-dire que en une vingtaine d'années, le temps que l'homme consacre aux tâches familiales, il a augmenté de 6% ou 10%. Donc il y a des résistances qui sont factuelles. Par exemple, dans l'égalité salariale, qui est un principe à travail égal, salaire égal, établi depuis longtemps, il y a tout de même 25% de différence entre les hommes et les femmes, et 10% si on considère la même tâche. Donc il y a des résistances objectives qui sont mesurables et quantifiables, et puis il y a des résistances subjectives, particulièrement du côté des hommes, qui ont du mal à trouver leur place aujourd'hui dans leur rôle. Et puis, il y a des résistances à d'autres choses. Et on peut aborder un sujet qu'on a abordé aussi, c'est qu'il y a des excès dans l'égalitarisme, qui est la question du mariage pour tous. Elle nous a rejoint en chemin, cette question-là. Et là, il est tout à fait normal de dire que, tout ne se vaut pas. C'est pas la même chose. Alors, c'est pas du tout de la même nature. La résistance, c'est pas du tout de la même nature, mais là, elle est valable. L'indifférenciation des sexes, par exemple, dans le cas du mariage pour tous, est quelque chose qui brouille l'affiliation, qui brouille les repères, qui brouille les identités. Et il nous a semblé, après avoir bien pesé les choses, que c'était une impasse et qu'une société qui réclamait une plus grande égalité des personnes ne pouvait pas comme ça brouiller et effacer les points de départ comme s'il n'y avait pas des conditions différentes. Voilà, on ne vient pas de nulle part, on est fait de chair et de sang différents et il faut bien aussi affirmer cette différence.
Est-ce que la dynamique de l'égalité dans son évolution, est-ce qu'elle n'a pas porté atteinte à la qualité des rapports entre hommes et femmes ?
Ça dépend de ce qu'on met là-dessous. On est passé d'un état à un autre. On est passé d'un état où il y avait une domination effective de l'homme sur la femme. Il y avait une répartition des tâches et des rôles à une autre société, qui est notre société contemporaine. Savoir si elle a porté atteinte, c'est très compliqué parce que on a bien pu vérifier que c'était aussi une question générationnelle. C'est-à-dire que les personnes un peu plus âgées ont une toute autre vision de la société, de la répartition des tâches et des rôles que des personnes plus jeunes. Donc c'est très difficile de porter un jugement de valeur. Il vaut mieux essayer de prendre la réalité comme elle est et de voir en quel sens on peut aller vers une meilleure égalité. Dans le domaine de la vie familiale, par exemple, dont on a pas mal parlé, le fait que les pères soient plus présents dans les tâches familiales, ça apporte aussi quelque chose à la vie de la famille, ça apporte quelque chose à la femme, ça apporte quelque chose aux enfants. Les changements de rôle, parfois, sont difficiles à assumer, parfois, créent des déstabilisations, ça, on en a pas mal parlé, mais ils sont tout de même la promesse d'un plus, parce que un homme plus une femme, ça fait pas seulement deux personnes, donc ça fait plus que deux, quoi. C'est vraiment l'addition de deux personnes dans lesquelles il y a de l'altérité et donc la promesse de quelque chose de plus.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, merci de votre fidélité.